Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici donc à nouveau ensemble pour la suite du roman de Patrick Modiano, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Il se souvenait que sur la carte de visite perdue figurait bien l'adresse d'une librairie au Palais Royal. Et peut-être le numéro de téléphone était-il celui de la librairie. Mais après plus de 45 ans, les deux pauvres détails ne suffiraient pas à le mettre sur la piste d'un homme qui n'était plus désormais qu'un nom. Il s'allongea sur le canapé et il ferma les yeux. Il avait décidé de faire un effort sur lui-même et de remonter, ne fût-ce qu'un instant, le cours du temps. Le roman Le Noir de l'été, il l'avait commencé en automne, le même automne où il était allé un dimanche au Tremblay. Il se rappelait qu'il avait écrit la première page du livre le soir de ce dimanche, dans la chambre du square du Grésivaudan. Quelques heures auparavant, quand la voiture de Torstel avait longé les quais de la Marne, puis traversé le bois de Vincennes, il avait vraiment senti l'automne peser sur lui. La brume, l'odeur de la terre mouillée, les allées jonchées de feuilles mortes. Désormais, le mot « Tremblay » serait pour lui toujours associé à cet automne-là. Et aussi le nom Torstel qu'il avait utilisé autrefois dans le roman, simplement à cause de sa sonorité. Voilà ce que lui évoquait Torstel. Il ne fallait pas chercher plus loin. C'est tout ce qu'il pouvait dire. Gilles Ottolini serait sans doute déçu. Tant pis. Après tout, il n'était pas obligé de lui donner la moindre explication. Cela ne le regardait pas. Presque 11 heures du soir. Quand il se trouvait seul chez lui à cette heure-là, il ressentait souvent ce qu'on appelle un passage à vide. Alors il allait dans un café des environs, ouvert très tard, la nuit. La lumière vive, le brouhaha, les allées et venues, les conversations auxquelles il avait l'illusion de participer, tout cela lui faisait surmonter, au bout d'un moment, son passage à vide. Mais depuis quelque temps, il n'avait pas besoin de cet expédient. Il lui suffisait de regarder par la fenêtre de son bureau l'arbre planté dans la cour de l'immeuble voisin et qui conservait son feuillage beaucoup plus tard que les autres, jusqu'en novembre. On lui avait dit que c'était un charme ou un tremble. Il ne savait plus. Il regrettait toutes les années perdues au cours desquelles il n'avait pas fait assez attention aux arbres ni aux fleurs. Lui, qui ne lisait plus d'autres ouvrages que l'Histoire naturelle de Buffon, il se rappela brusquement un passage des mémoires d'une philosophe française. Celle-ci était choquée de ce qu'avait dit une femme pendant la guerre. « Que voulez-vous, la guerre ne modifie pas mes rapports avec un brin d'herbe ?» Elle jugeait sans doute que cette femme était frivole ou indifférente. Mais pour lui, d'Aragan, la phrase avait un autre sens. Dans les périodes de cataclysme ou de détresse morale, pas d'autre recours que de chercher un point fixe pour garder l'équilibre et ne pas basculer par-dessus bord. Votre regard s'arrête sur un brin d'herbe, un arbre, les pétales d'une fleur, comme si vous vous accrochiez à une bouée. ce charme ou ce tremble, derrière la vitre de sa fenêtre, le rassurait. Et bien qu'il soit presque 11 heures du soir, il était réconforté par sa présence silencieuse. Alors autant finir tout de suite et lire les pages dactylographiées. Il fallait bien qu'il se rende à l'évidence. La voix et le physique de Gilles Ottolini lui avaient semblé de prime abord ceux d'un maître chanteur. Il avait voulu vaincre ce préjugé. Mais y était-il vraiment parvenu ? Il ôta le trombone qui maintenait les pages ensemble. Le papier de la photocopie n'était pas le même que celui de l'original. Il se rappela combien les feuilles, à mesure que Chantal grippait les photocopiait, étaient minces, transparentes. Elles avaient évoqué pour lui le papier à lettres par avion. Mais ce n'était pas tout à fait exact. Elles avaient plutôt la même transparence que le papier pelure utilisé pour les interrogatoires de police. Et d'ailleurs, Chantal Grippet lui avait dit « Gilles a pu obtenir des renseignements à la police ». Il jeta un dernier regard sur le feuillage de l'arbre, devant lui, avant de commencer sa lecture. Les caractères étaient minuscules, comme si on les avait tapés sur l'une de ces machines à écrire portatives qui n'existaient plus aujourd'hui. Tarragan avait l'impression de se plonger dans un bouillon compact, indigeste. Parfois, il sautait une ligne et devait revenir en arrière à l'aide de son index. Plutôt qu'un rapport homogène, il s'agissait de notes très brèves, mises bout à bout dans le plus grand désordre, concernant l'assassinat d'une certaine Colette Laurent. Les notes retraçaient son parcours. Arrivé de province très jeune à Paris, emploi dans une boîte de nuit de la rue de Ponthieu, chambre dans un hôtel, quartier de l'Odéon, elle fréquente des élèves de l'école des Beaux-Arts. Liste des gens interrogés et qu'elle aurait pu connaître dans la boîte de nuit, liste d'étudiants des Beaux-Arts, corps retrouvé dans une chambre d'hôtel, 15e arrondissement, interrogatoire du patron de l'hôtel. C'était donc le fait divers qui intéressait Ottolini. Il interrompit sa lecture. Colette Laurent. Ce nom en apparence anodin provoquait un écho chez lui, mais trop sourd pour qu'il puisse le définir. Il lui semblait avoir lu la date, 1951, mais il n'avait pas le courage de vérifier parmi les mots pressés les uns contre les autres qui vous donnaient une sensation d'étouffement. 1951. Depuis, il s'était écoulé plus d'un demi-siècle, et les témoins de ce fait divers, et même l'assassin, n'existaient plus. Gilles Ottolini arrivait trop tard, ce fouille-merde resterait sur sa faim. Tarragan regretta de l'avoir affublé d'un qualificatif aussi grossier. Encore quelques pages à lire. Il éprouvait toujours cette nervosité et cette appréhension qui l'avaient saisi quand il avait ouvert le dossier. Il contempla un instant le feuillage du charme qui s'agitait doucement, comme si l'arbre respirait dans son sommeil. Oui, cet arbre était son ami. Et il se rappela le titre d'un recueil de poèmes qu'une fille avait publié à 8 ans. « Arbre, mon ami ». Il était jaloux de cette fille parce qu'il avait le même âge et que lui aussi, à cette époque-là, écrivait des poèmes. De quand cela datait-il ? D'une année de son enfance presque aussi ancienne que l'année 1951, au cours de laquelle Colette Laurent avait été assassiné. De nouveau, les lettres minuscules, sans double interligne, dansaient sous ses yeux, et il faisait glisser son index pour ne pas perdre le fil. Enfin, le nom Guy Torstel. Il était associé à 3 noms parmi lesquels il eut la surprise de reconnaître celui de sa mère. Les deux autres étaient Bob Bunyan et Jacques Perrin de Lalla. Il se souvenait vaguement d'eux. Et cela remontait aussi à l'époque lointaine où la fille de son âge avait publié « Arbre, mon ami ». Le premier, Bunyan, une silhouette sportive et vêtue de beige, un brun, croyait-il, et l'autre, un homme à la grosse tête de statue romaine qui s'accoudait au marbre des cheminées dans une pose élégante pour parler. Les souvenirs d'enfance sont souvent de petits détails qui se détachent sur du néant. Ces noms avaient-ils attiré l'attention d'Ottolini et avaient-ils établi un rapport entre eux et lui, d'Aragan ? Mais non, certainement pas. D'abord, sa mère ne portait pas le même nom de famille que lui. Les deux autres, Bunyan et Perrin de Lalla, s'étaient perdus dans la nuit des temps et Ottolini était trop jeune pour qu'il lui évoque quelque chose. À mesure qu'il lisait, il avait le sentiment que ce dossier était une sorte de fourre-tout où se mêlaient les bribes de deux enquêtes différentes qui n'avaient pas été menées à la même année, puisqu'il était indiqué maintenant 1952. Entre les notes de 1951 concernant l'assassinat de Colette Laurent et celles qui figuraient sur les deux dernières pages, il crut pourtant discerner un mince fil conducteur. Colette Laurent avait fréquenté une maison de Saint-Leu-la-Forêt, où habitait une certaine Annie Astran. Cette maison était apparemment sous surveillance policière, mais pour quelle raison ? Parmi les noms cités, ceux de Torstel, de sa mère, de Bunyan et de Perrin de Lalla, deux autres noms ne lui étaient pas inconnus. Roger Vincent, et surtout celui de la femme qui habitait la maison de Saint-Leu-la-Forêt, une certaine Annie Astran. Il aurait voulu mettre de l'ordre dans ses notes confuses, mais cela lui sembla au-dessus de ses forces. Et puis, à cette heure tardive de la nuit, on se fait souvent de drôles d'idées. La cible que Gilles Ottolini avait en tête quand il avait rassemblé toutes les notes de son dossier, eh bien, ce n'était pas un vieux fait divers, mais c'était lui-même, d'Aragan. Bien sûr, Ottolini n'avait pas trouvé l'angle de tir, il tâtonnait, il s'égarait sur des chemins de traverse, il était incapable d'entrer dans le vif du sujet. Il le sentait rôder autour de lui à la recherche d'une voie d'accès. Peut-être avait-il rassemblé tous ces éléments disparates en espérant que d'Aragan réagirait à l'un d'eux, comme ces policiers qui commencent un interrogatoire par des propos insignifiants pour endormir les défenses du suspect. Alors quand celui-ci se sent à l'abri, il lui lance brutalement la question cruciale. Ses yeux se posèrent de nouveau sur le feuillage du charme derrière la vitre et il eut honte de pareilles pensées. Il perdait son sang-froid. Les quelques pages qu'il venait de lire n'étaient qu'un brouillon maladroit, une accumulation de détails qui cachaient l'essentiel. Un seul nom provoquait son trouble et avait pour lui l'effet d'un aimant, Annie Astran. Mais il était à peine lisible au milieu de ces mots entassés par double interligne. Annie Astran. Une voix lointaine captée très tard à la radio et dont vous vous dites qu'elle s'adresse à vous pour vous transmettre un message. Quelqu'un lui avait affirmé un jour que les voix de ceux dont vous avez été proche dans le passé, vous les oubliez très vite. Pourtant, s'il entendait aujourd'hui la voix d'Annie Astran derrière lui, dans la rue, il était certain qu'il la reconnaîtrait.
Septembre, notre amour d'un été tristement se démembre et se meurt au passé. j'avais beau m'y attendre. Mon cœur vide de tout ressemble à s'y méprendre à Paris. Fait notre amour qui redoutant le pire vivait au jour le jour. Chaque rue, chaque pierre semblait n'être qu'à nous. Nous étions seuls sur terre à Paris, au mois d'août. Pour te dire je t'aime, aussi loin que tu sois, une part de moi-même reste accrochée à toi. Et l'autre solitaire recherche de partout l'aveuglante lumière de Paris au mois d'août. Dieu, fasse que mon rêve de retrouver un du mois d'août sur tes lèvres, de Paris dans tes yeux, prenne forme et relance notre amour un peu fou pour que tout recommence.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
La suite du roman de Patrick Modiano, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Quand il serait de nouveau en présence d'Ottolini, il se garderait bien d'attirer son attention sur ce nom, Annie Astran. Mais il n'était pas sûr de le revoir. À la rigueur, il lui écrirait un mot très court pour lui donner les maigres renseignements sur Guy Torstel. Un homme qui s'occupait d'une librairie, galerie de Beaujolais, en bordure des jardins du Palais Royal, oui. Il ne l'avait rencontré qu'une fois, il y avait près de 50 ans, un dimanche soir d'automne, au Tremblay. Il pourrait même pousser la gentillesse jusqu'à lui fournir quelques détails supplémentaires sur les deux autres, Bunyan et Perrin de Lalla, des amis de sa mère, comme devait l'être Guy Torstel. L'année où il lisait les poèmes d'Arbre mon ami et où il enviait cette fille de son âge qui en était l'auteur, Bunyan et Perrin de Lalla, et peut-être aussi Torstel, gardaient toujours un livre dans leur poche, comme un missel, un livre dont il paraissait faire grand cas. Il se souvenait de son titre, Fabrizio Lupo. Un jour, Perrin de Lalla lui avait dit d'une voix grave, « Toi aussi, quand tu seras grand, tu liras Fabrizio Lupo. » L'une de ces phrases qui resteront mystérieuses jusqu'à la fin de votre vie à cause de leur sonorité. Plus tard, il avait cherché ce livre, mais par malchance, il n'en avait jamais trouvé un exemplaire et il n'avait jamais lu Fabrizio Lupo. Il n'aurait pas besoin d'évoquer ces minuscules souvenirs. La perspective la plus vraisemblable, c'est qu'il finirait par se débarrasser de Gilles Ottolini. Les sonneries du téléphone auxquelles il ne répondrait pas, des lettres dont certaines seraient recommandées. Le plus gênant, c'est qu'Ottolini se posterait devant l'immeuble. Et comme il ignorait le code, il attendrait que quelqu'un pousse la porte cochère pour se glisser derrière lui. Il viendrait sonner à sa porte. Il faudrait aussi débrancher cette sonnette. Chaque fois qu'il sortirait de chez lui, il tomberait sur Gilles Ottolini, qui l'aborderait et le suivrait dans la rue. Et il n'aurait plus d'autre recours que de se réfugier dans le commissariat de police le plus proche. Mais les flics ne prendraient pas ses explications au sérieux. Il était près d'une heure du matin. Et il se dit qu'à cette heure-là, dans le silence et la solitude, on se monte la tête pour un rien. Il reprit son calme peu à peu. Et même, il eut une sorte de crise de fou rire en pensant au visage d'Ottolini, l'un de ces visages si étroits que même s'ils sont de face, on les croirait de profil. Les feuilles dactylographiées étaient éparpillées sur son bureau. Il prit un crayon qui portait à l'une de ses extrémités une mine rouge et à l'autre une mine bleue, et dont il se servait pour corriger ses manuscrits. Il biffa au fur et à mesure les pages de grands traits au crayon bleu et il encercla de rouge le nom Annie Astran. Vers 2 heures du matin, le téléphone sonna. Il s'était endormi sur le canapé. Allô ? Monsieur Daragan ? C'est Chantal Grippet. Il eut un moment d'hésitation. Il venait de faire un rêve où lui était apparu le visage d'Annie Astran, et cela ne lui était pas arrivé depuis une trentaine d'années. « Vous avez lu les photocopies ?»«
Oui. »«
Pardonnez-moi de vous téléphoner si tard, mais j'étais tellement impatiente que vous me donniez votre avis. »« Vous m'entendez ?»«
Oui. »«
Il faudrait que nous nous voyions avant le retour de Gilles. » « Est-ce que je peux passer chez vous ?»«
Maintenant ?»«
Oui, maintenant. »
Il lui indiqua l'adresse, le numéro de code, l'étage. Était-il sorti de son rêve ?
Tout à l'heure, le visage d'Annie Astran lui semblait si proche. Elle se tenait au volant de sa voiture devant la maison de Saint-Leu-la-Forêt. Il était assis sur la banquette à côté d'elle et elle lui parlait. Mais il n'entendait pas le son de sa voix. Sur son bureau, les photocopies en désordre. Il avait oublié qu'il les avait rayées de traits bleus, et le nom Annie Astran, qui sautait aux yeux à cause de son cercle rouge. Il faudrait éviter de montrer cela à Gilles Ottolini. Ce cercle rouge risquait de le mettre sur une piste. N'importe quel flic aurait posé la question s'il était tombé dessus, après avoir tourné lentement les pages. « Pourquoi avez-vous souligné ce nom ?» Il jeta un regard au charme dont le feuillage était immobile et cela le rassura. Cet arbre était une sentinelle, la seule personne qui veilla sur lui. Il se posta à la fenêtre du côté de la rue. À cette heure-là, il ne passait aucune voiture et l'air réverbère brillait pour rien. Il vit Chantal Grippet qui marchait sur le trottoir d'en face et elle semblait regarder les numéros des immeubles. Elle tenait à la main un sac en plastique. Il se demanda si elle avait marché de la rue de Charonne jusqu'ici. Il entendit la porte cochère se fermer brutalement et son pas dans l'escalier, un pas très lent, comme si elle hésitait à monter. Avant qu'elle sonne, il ouvrit la porte et elle sursauta. Elle était toujours vêtue d'une chemise et d'un pantalon noir. Elle lui parut aussi timide que la première fois au café de la rue de l'Arcade. « Je ne voulais pas vous déranger si tard. » Elle restait immobile sur le pas de la porte, l'air de s'excuser. Il lui prit le bras pour la faire entrer. Sinon, il pressentait qu'elle aurait fait demi-tour. Dans la pièce qui lui servait de bureau, il lui désigna le canapé où elle s'assit et elle déposa le sac en plastique à côté d'elle. « Alors, vous avez lu ?» Elle lui avait posé la question d'une voix anxieuse. Pourquoi y attachait-elle autant d'importance ?«
J'ai lu. »
Mais je ne peux vraiment pas être d'une aide quelconque à votre ami, je ne connais pas ces gens. même Thorstel. Elle le regardait droit dans les yeux. L'interrogatoire allait reprendre sans interruption jusqu'au matin, puis vers 8 heures, on sonnerait à la porte. Ce serait Gilles Ottolini de retour de Lyon qui viendrait la relayer. Oui, même Thorstel. Pourquoi avoir utilisé ce nom dans un livre si vous ne le connaissiez pas ? Elle avait pris un ton faussement candide. Je choisis les noms au hasard, en consultant l'annuaire. Alors vous ne pouvez pas aider Gilles. Il vint s'asseoir à côté d'elle sur le canapé et rapprocha son visage du sien. De nouveau, il vit la cicatrice à la pommette gauche. Il voudrait que vous l'aidiez à écrire. Il pensait que tout ce qui est inscrit sur ces feuilles vous touchait de très près. Il eut à cet instant le sentiment que les rôles s'inversaient et qu'il suffirait de peu de choses pour la faire craquer, selon l'expression qu'il avait entendue autrefois dans un certain milieu. Sous la lumière de la lampe, il remarqua les cernes sous ses yeux et le tremblement de ses mains. Elle lui semblait plus pâle que tout à l'heure, quand il lui avait ouvert la porte. Sur son bureau, les pages qu'il avait raturées au crayon bleu étaient bien visibles. Mais elle n'avait rien remarqué pour le moment. Gilles a lu tous vos livres et il s'est renseigné sur vous. Ces mots lui causèrent une légère inquiétude. Il avait eu la malchance d'attirer l'attention de quelqu'un qui désormais ne le lâcherait pas. Ainsi, certaines personnes dont vous croisez le regard, elles peuvent soudain être agressives, sans raison aucune, ou bien venir vous adresser la parole et il est difficile de s'en débarrasser. Il s'efforçait de toujours baisser le regard dans la rue. Et puis il compte le licencier à l'agence Sweet. Il va de nouveau se retrouver au chômage. Daragan fut frappé par le ton las qu'elle avait pris. Il crut discerner dans cette lassitude une pointe d'exaspération et même un peu de mépris. Il pensait que vous alliez l'aider. Il a l'impression de vous connaître depuis longtemps. Il sait beaucoup de choses sur vous. Apparemment, elle voulait en dire plus. C'était bientôt l'heure de la nuit où les maquillages se craquèlent et où on se laisse aller au bord des confidences. Vous boirez bien quelque chose ? Oh oui, quelque chose de fort. J'ai besoin d'un coup de fouet. Daragan fut étonné qu'à son âge, elle employât cette expression surannée. Il n'avait pas entendu le mot « coup de fouet » depuis longtemps. Peut-être Annie Astran les utilisait-elle autrefois. Elle tenait ses mains serrées l'une contre l'autre, comme si elle cherchait à contenir leur tremblement. Il ne trouva dans le placard de la cuisine qu'une bouteille de vodka à moitié vide, dont il se demanda qui avait bien pu la laisser là. Elle s'était installée sur le divan, les jambes allongées, le dos contre le gros coussin orange. « Excusez-moi, mais je me sens un peu fatiguée. » Elle but une gorgée, puis une autre. Ça va mieux. C'est terrible, ce genre de soirée. Elle regardait Daragan, l'air de vouloir le prendre à témoin. Il hésita un instant avant de lui poser la question. Quelle soirée ? Celle d'où je viens ? Puis d'une voix sèche, on me paie pour aller à ces soirées. C'est à cause de Gilles, il a besoin d'argent. Elle baissa la tête. Elle semblait regretter ses propos. Elle se tourna vers Daragan, assis en face d'elle sur le tabouret de velours. « Ce n'est pas lui que vous devriez aider, c'est moi. » Elle lui lança un sourire dont on aurait pu dire qu'il était pauvre ou pâle. « Je suis quand même une fille honnête. Alors je devrais vous mettre en garde contre Gilles. » Elle changea de position et s'assit au bord du canapé pour bien lui faire face. « Il a appris des choses sur vous, par cet ami de la police, alors il cherchait à entrer en contact avec vous. » La fatigue ? Daragan ne comprenait plus ce qu'elle disait. Quelles pouvaient bien être les choses,
que cet individu avait apprise sur lui à la police. En tout cas, les pages du dossier n'étaient pas très concluantes. Et presque tous les noms cités, il ne les connaissait pas, sauf sa mère, Torstel, Bunyan et Perrin de Lalla. Mais de si loin. Ils avaient si peu compté dans sa vie, des figurants, depuis longtemps disparus. Bien sûr, Annie Astrand était mentionnée, à peine. Son nom passait totalement inaperçu, il était noyé parmi les autres. Et encore avec une faute d'orthographe. Astrand. Sans D.
Ne vous inquiétez pas pour moi, dit Daragan. Je n'ai peur de personne. Et surtout pas des maîtres chanteurs.
Elle parut surprise qu'il ait employé ce terme, maître chanteur, mais comme si c'était une évidence à laquelle elle n'avait pas pensé.
Je me suis toujours demandé s'il ne vous avait pas volé votre carnet d'adresse. Elle souriait.
Et Daragan pensa qu'elle voulait plaisanter.
Quelquefois, Gilles me fait peur. C'est pourquoi je reste avec lui. Nous nous connaissons depuis si longtemps.
La voix était de plus en plus rauque, et il craignait que ses confidences ne durent jusqu'au matin.
Pourrait-il soutenir son attention et les écouter jusqu'au bout?
Nous avons terminé pour ce soir, donc, ce roman de Patrick Modiano, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez en retrouver le podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.